Alors bonsoir à tous. Je vais un petit peu décrire comment l'Union européenne fonctionne, alors sa structure et aussi comment elle deal au-delà des frontières avec l'activisme. Alors déjà, un des premiers organes de l'Union européenne qui nous concerne, ça va être le Conseil de l'Union européenne qui rassemble les soi-disant chefs d'État qui vont répartir selon les branches, ils vont se répartir en groupes de travail, donc il va y avoir des conseils où ce sont les ministres de l'agriculture qui se réunissent, d'autres où c'est les ministres du travail, et ce qui va nous intéresser plus ce soir, les ministres de la sécurité intérieure. Donc ensuite, il y a la Commission européenne, c'est on peut appeler l'administration de l'Union européenne, et une de ses tâches principales, c'est de faire des propositions de loi qui, en Union européenne, vont prendre la forme soit de règlements, soit de directives.
Par exemple, la semaine dernière, ils ont eu une session de travail sur Frontex et sur les thèmes de la migration. Et ils ont discuté de sujets, ils ont pris des décisions plutôt répressives.
Alors ensuite, il y a le Parlement européen. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les parlements nationaux. C'est un organe qui est très gros, où il y a beaucoup de personnes, mais qui en fait a peu de prérogatives. Et contrairement aux parlements nationaux, il ne peut pas faire de propositions de loi. C'est la commission qui le fait. Et pour le dire méchamment, en gros, il est là pour dire oui ou non après la proposition. Alors là, on va parler du traité de Lisbonne qui a été établi en 2009. C'est un moment important parce que, en fait, avant le traité de Lisbonne, les décisions qui concernaient la justice et la sécurité intérieure devaient être prises à l'unanimité. Et après le traité de Lisbonne, les décisions sont prises à la majorité, ce qui implique en fait que ça donne plus de pouvoir à l'Union européenne dans ces domaines et ça donne plus de décisions. Donc là, il va rentrer un peu plus dans le détail des institutions. On ne va pas parler de toutes, on va parler de trois qui nous intéressent particulièrement ce soir. La première, c'est Frontex, qui est compétente pour la sécurité aux frontières. C'est sûrement une des agences dont vous avez pas mal entendu parler, puisqu'on parle aussi beaucoup de migration. Alors ce soir, on va parler de la répression contre la gauche radicale, mais il voudrait quand même préciser que en ce moment, dans l'Union européenne, ceux qui sont les plus cibles de la répression, ça reste les migrants. Par exemple, dans le discours de Juncker la semaine dernière, il a été question d'étendre les prérogatives de Frontex. Alors, les agences, en général, n'ont pas de pouvoir opérationnel. Elles n'ont pas de pouvoir coercitif. En fait, normalement, elles coordonnent des opérations. Et par exemple, pour Frontex, c'est une agence qui a 1600 employés. Et en fait, ils vont toujours travailler en lien avec la police nationale. C'est pas eux qui vont mettre en œuvre les politiques. Et donc, la proposition d'étendre Frontex, ça veut dire deux fois plus de fonctionnaires, donc 3000 fonctionnaires au sein de l'agence, et un bataillon de frontières avec 7000 agents. Et donc les budgets européens, ça marche toujours par période de 7 ans. Et pour la période 2020-2027, il est prévu d'accorder 35 milliards d'euros à la question de la sécurisation des frontières. Donc là c'était une petite parenthèse sur la question de la migration. On va revenir au sujet de la répression et parler des compétences en matière de police criminelle. Et pour ce qui nous concerne en fait, c'est Europol, l'agence Europol, qui a son siège en Hollande et qui est compétente pour la coopération en matière de la coopération judiciaire et de poursuite. Et donc, comme il l'avait précisé avant, normalement, les agences, elles n'ont pas de compétences opérationnelles, mais on voit qu'elles commencent à en avoir de plus en plus et ça se traduit physiquement par l'installation de centres, en fait, de plateformes opérationnelles. C'est aussi quelque chose qui se passe en Allemagne, où ils vont par exemple avoir un centre sur l'antiterrorisme ou un centre sur le cyberterrorisme. Même s'ils commencent à avoir des compétences opérationnelles, ça ne veut pas dire que en cas de perquisition chez vous, par exemple, Europol va se trouver devant votre porte comme exécutant principal de la perquisition. Par contre, ça se peut qu'il soit là aussi. Et qui soient en fait les coordinateurs de l'enquête. Et donc on sait que c'est déjà arrivé dans plusieurs cas concernant la gauche. Par contre, on n'en est pas sûr. Il se posait la question par exemple pour Bure. On sait qu'il y a des indices, mais on ne peut pas dire clairement si Europol fait une enquête là-bas. Et donc la troisième agence qui nous intéresse, c'est l'agence Eurojust, qui en fait ce serait l'équivalent, enfin pas encore, mais c'est ce qui concerne les ministères publics, le parquet. Pour l'instant, c'est une agence qui est peu développée, mais elle va avoir plus de compétences. Jusque-là, Eurojust était surtout compétent pour, en matière de faux.
En euros,
ok, à la contrefaçon de monnaie, de l'euro. Mais la semaine dernière, il a été évoqué qu'elle pourrait avoir des compétences en matière de terrorisme. La question se pose, est-ce qu'ils vont créer un parquet européen ? Alors, ce serait un parquet qui aurait la compétence exclusive, et ça, c'est a priori contraire à la façon dont s'organisent jusque-là les institutions en Union européenne. Ça va sûrement être un chemin intermédiaire où il y aura toujours des procureurs au niveau national, mais aussi au niveau européen, et qui vont coopérer, quoi. Alors là, sur cette diapo, en fait, il donne un aperçu, mais qui ne va pas détailler des formes de coopération qui existent au niveau européen. Il précise en fait que ce type de coopération entre les États membres existait bien sûr avant, mais plus de manière bilatérale, avec des accords. Par exemple, il y a des accords bilatéraux entre la France et l'Allemagne. Mais là, l'idée, c'est que ça va s'étendre, la coopération va s'étendre à plus de branches, et elle sera valable pour les 28 États membres. Donc il va juste détailler un élément, parce qu'il pense que c'est assez révélateur de comment fonctionne la coopération en Europe, et il s'agit du mandat d'arrêt européen. Pour le mandat d'arrêt européen, l'idée, c'est qu'il y a une liste de 30 infractions pour lesquelles l'extradition va être facilitée. Et il y a aussi un délai d'extradition. Ça veut dire que l'État à qui il est demandé d'extrader une personne a 60 jours pour le faire, et obligé de le faire. Pour ces 30 infractions, en fait, il n'y aura pas beaucoup de procédures de vérification. Alors, il aime bien prendre l'exemple de Puigdemont, de Catalogne, contre lequel l'Espagne a livré un mandat d'arrêt européen. Et Puigdemont a été arrêté en Allemagne, mais n'a pas été extradé, ce qui est un peu étrange.
Weil es gab unter anderem zwei Vorwürfe gegen Puigdemont in Spanien. Einmal Veruntreuung öffentlicher Gelder für das Referendum und zum zweiten Landesverrat. Beides stand in dem europäischen Haftbefehl.
Alors dans le mandat d'arrêt européen contre Puigdemont, il y avait deux reproches principaux, deux infractions. La première, c'était le détournement de fonds publics pour l'organisation du référendum. Et la deuxième, c'était trahison de la patrie. Et donc en fait, dans la liste des 30 infractions pour laquelle l'extradition est facilitée, il y a bien les histoires de détournement d'argent public, mais il n'y a pas la trahison à la patrie, parce que c'est un délit politique. Ça veut dire que, en fait, l'Allemagne aurait dû extrader Puigdemont en Espagne, mais il n'aurait pu être jugé en Espagne sur la base de ce mandat d'arrêt européen que sur le détournement de fonds. Et donc, du coup, l'Espagne n'était pas intéressée et ne pouvait pas non plus forcer la procédure. Dans le cadre du mandat d'arrêt européen, ils auraient pu faire que ça, que le juger pour le détournement de fonds. Donc, ils ont retiré leur mandat d'arrêt européen et ont dit qu'ils trouveraient un autre moyen de le coincer. Ce qui pourrait arriver, par exemple, c'est que Puigdemont soit au Portugal et qu'il y ait des meilleures relations entre le Portugal et l'Espagne, et que d'un coup, il y a un nouveau mandat d'arrêt européen, et que cette fois-ci, ça fonctionne. Donc en fait, en gros, les États membres essayent de se servir des outils européens quand ça les arrange. Donc voilà, là on va détailler un peu plus sur les moyens. Et un des grands moyens, c'est les banques de données. Et la plus grosse banque de données en Europe, c'est le système d'information de Schengen, qui contient beaucoup d'avis de recherche pour différentes raisons. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une base de données qui contient des avis de recherche sur des personnes et des objets, par exemple des documents volés ou des véhicules volés. Donc en fait, quand des personnes sont enregistrées dans le système d'information Schengen, ça va être sur la base de différents motifs. Un qu'on a déjà évoqué, c'est le mandat d'arrêt européen. En proportion avec les autres, c'est pas le plus important. La raison la plus importante, c'est pour 500 000 de personnes, en fait, c'est des personnes qui sont expulsées, expulsables, et qui n'ont plus le droit de voyager en Europe. Donc ça montre bien que le système d'information Schengen n'est avant tout pas un fichier de police, mais plutôt un fichier contre les étrangers.
Donc du coup, la procédure habituelle quand il y a un contrôle de police et qu'il y a un contrôle d'identité de personne ou de véhicule, c'est qu'ils vont téléphoner et faire une demande à la fois au fichier de recherche national, mais aussi au système d'information de Schengen. Ah, donc c'est... Et donc c'est une obligation, en fait. Ils doivent demander, faire la demande aux deux fichiers. Et donc, un des moyens les plus importants en termes de, dans le domaine politique, c'est ce qu'on appelle les recherches discrètes. Alors, c'est quelque chose qui existe aussi dans les États, enfin, au niveau national. C'est pas l'Union européenne qui l'a inventé, mais là, c'est mis en œuvre aussi au niveau européen. Et c'est un moyen qui permet d'observer, suivre, relever des informations sur des personnes sans qu'elles en soient alertées ou prévenues. Par exemple, on sait que là, après le G20, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours. Dans le cadre de ces recherches discrètes, on sait que Hambourg, par exemple, va pouvoir demander à être informé à chaque contrôle de personnes qui font l'objet de ces recherches discrètes, où la personne a été contrôlée, avec qui elle était, dans quel véhicule et où elle allait. Alors, c'était un exemple. Il ne sait pas si Hambourg le fait là en ce moment, mais c'est ce qu'il pourrait faire dans le cadre des moyens qui sont mis à disposition. Et donc, d'après ce qu'il a entendu, il pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais il n'y a pas de confirmation officielle. Alors, les recherches discrètes, c'est un moyen qui est utilisé souvent et même de plus en plus souvent. Eux, ils font en fait des demandes tous les 6 mois et ils voient que le nombre augmente considérablement. C'est la France qui fait le plus de demandes pour des recherches discrètes. Le nombre, là, en ce moment, c'est 78 000. Et,
millions.
Ah bon ? Millions ?
78, Entschuldigung, 1000.
Non, il exagère. 78 000. Et il dit que pour l'instant, il n'a pas vraiment d'explication. La France est de loin la première à faire ces demandes. Une explication potentielle pour l'augmentation de ces recherches discrètes, c'est sûrement le contexte des attaques terroristes et notamment des attaques terroristes islamistes. Et on sait que ces demandes de recherches discrètes peuvent être faites par la police et par les services de renseignement. Et en fait, les services de renseignement n'ont pas le droit de le faire depuis très longtemps. Et du coup, ça explose en fait le nombre de demandes qu'ils font. Et donc là, sur cette diapo, vous pouvez voir toute une liste d'autres banques de données qui existent au niveau européen. On ne va pas les détailler. Il voudrait seulement faire remarquer que on voit que les moyens ont été mis en œuvre plutôt pour contrôler les étrangers. Les deux premières, c'est la banque d'informations sur les visas et sur les fichiers d'empreintes. Et c'est surtout fait pour les demandeurs d'asile et vérifier qu'ils n'ont pas déjà fait une demande d'asile ailleurs. Et donc le fichier, la banque de données des empreintes, c'est la première pour laquelle ils ont utilisé des données biométriques. Et donc on voit que aussi les étrangers sont utilisés presque comme cobayes des nouveaux moyens de surveillance parce qu'on sait qu'il y aura moins de résistance.
Les autres aussi elles contiennent des empreintes, les autres banques de données, seulement on ne peut pas, comme dans le VIS, faire une recherche automatique à l'intérieur de ce fichier. On peut seulement comparer les empreintes qui sont présentes dans ces dossiers. On n'est pas aussi compétente.
Je parle de l'Eurodac, la seconde.
D'accord, la seconde, en fait, c'était Eurodac.
Et donc, cette Eurodac, la banque de données sur les empreintes, est aussi la première où on met des visages, des photos, et on va pouvoir faire des recherches de reconnaissance faciale. Donc, les migrants, encore une fois, sont... les premiers à essuyer les expériences de surveillance. Et donc là, il va expliquer un petit peu plus sur la reconnaissance faciale. Et en fait, l'exemple du G20 l'année dernière à Hambourg permet de voir les moyens d'enquête qui sont mis en œuvre. Et en fait, la police a fait un appel à la population pour pouvoir collecter des vidéos et des photos. Et ensuite, on a mis en place un portail en ligne. On a mis en place un portail en ligne où les gens pouvaient poster les vidéos et les photos qu'ils avaient faites pendant le sommet. Donc en fait, ils ont récolté comme ça 30 000 photos et vidéos. Ils ont tout regardé, donc fait tout un travail. Ça a été beaucoup de moyens mis en œuvre. Et ensuite, ils ont travaillé avec un logiciel qui notamment utilise la reconnaissance faciale. Et donc, ce logiciel n'utilise pas que la reconnaissance faciale, il y a aussi d'autres techniques. Par exemple, on peut marquer une personne sur une vidéo qui porte des habits qu'on remarque et demander au logiciel de faire une recherche sur les autres matériaux vidéo et photos pour voir si on la retrouve ailleurs et si on peut voir qu'elle commet une autre infraction. Et donc, les personnes qui n'ont pas pu être identifiées avec cette méthode ont ensuite vu leurs photos publiées dans des avis de recherche publique. Alors, il y a eu quatre vagues où ont été mis en ligne les photos de personnes pas encore identifiées. Et donc, finalement, avec la technique de recherche par logiciel, ils ont pu identifier que 3 personnes. Et les autres personnes ont écopé d'un avis de recherche publique. Ça montre bien que en fait, c'est très disproportionné par rapport à toute la technique et tout le temps qui a été mis en œuvre et que c'est une technique qui finalement donne peu de résultats. Il voudrait parler d'un autre truc un peu bizarre qui est apparu au moment du G20, c'est ce qu'ils appellent les super reconnaisseurs. Alors, en fait, les recherches scientifiques ont montré que moins d'1% de la population aurait des capacités extraordinaires de reconnaissance et de retenir des visages, une capacité qu'on pourrait comparer avec des capacités autistiques. Et donc, on sait que ces super reconnaisseurs ont été utilisés pour le G20 et pour la fête de la bière à Munich. On n'a pas les détails sur comment ils ont fait, ni dans quelle proportion, mais a priori, la technique, ce serait qu'ils regardent les vidéos ensuite et sont capables de dire « cette personne, j'ai déjà vu sur cette vidéo ». Et donc ça, c'est pas encore prouvé du tout, mais c'est une spéculation, mais on peut quand même s'imaginer que ces personnes, après avoir vu toutes ces vidéos, vont ensuite être envoyées à des manifs postérieurement et pourront reconnaître des visages. Et en fait, ça, c'est un truc vraiment tout nouveau. Il a entendu parler de ça il y a seulement 2 mois quand ils ont fait une question au gouvernement à ce sujet. Et apparemment, c'est une expérience très récente, mais il pense que c'est quelque chose qu'on doit garder à l'œil, qu'on doit surveiller. Donc maintenant, il va parler de quelques moyens juridiques au niveau de l'Union européenne. Un qui est très important, c'est la décision d'enquête européenne, et ça a été utilisé dans le cadre du G20. Donc l'idée de la décision d'enquête européenne, en fait, c'est qu'on a un État demandeur qui va forcer un État à exécuter des mesures de police. Et on sait que ça a été fait dans le cadre du G20 pour demander des perquisitions dans d'autres États. Donc ce qui est précisé aussi, c'est comme pour le mandat d'arrêt européen, en fait, il y a un délai d'exécution. Ici, c'est 90 jours, donc l'État chargé d'exécuter la mesure doit le faire dans les 3 mois après la demande. Et c'est aussi l'État exécutant qui doit porter les coûts. D'autres exemples de mesures de police qu'un État peut demander de faire à un autre, ça va être d'organiser une vidéoconférence pour une audition d'un témoin. Donc même si cette personne n'est pas inculpée, par exemple l'Allemagne va demander à la France d'aller chercher cette personne et de faire une audition de témoin en vidéoconférence. Ou encore d'envoyer des enquêteurs infiltrés. Donc toutes ces mesures sont assez récentes, ça existe depuis 1 an. En ce qui concerne les enquêteurs, les policiers infiltrés, c'est la seule mesure où les débats ont été plus compliqués, parce qu'en fait, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont déjà pas mal d'expérience sur l'envoi de flics infiltrés en Europe, au-delà de leurs frontières, on dit que c'est des choses qu'on ne peut pas ordonner immédiatement, qu'on ne peut pas exécuter en 3 mois, et que c'est des choses plus subtiles et plus lentes à mettre en place. Alors, l'exemple d'un flic infiltré dans la scène de gauche, c'est Mark Kennedy, qui est assez connu, qui est un flic anglais, qui a été infiltré pendant 7 ans dans la scène, et qui, à cette époque-là, a parcouru finalement la moitié des États membres de l'Europe, quoi. Il était actif dans les mouvements de justice climatique, a même tenu des conférences.
La radicale Klimabewegung, non ?
Les mouvements radicaux de justice climatique. Et il a fait un infotour qui allait de la Finlande au Portugal et est passé dans plein de lieux alternatifs.
Donc dans le cadre de cette décision d'enquête européenne, les moyens techniques qui peuvent être en place ou ce que les États membres peuvent demander aux autres de faire, ça va être par exemple de mettre en place des outils de géolocalisation, des traceurs, d'organiser des écoutes téléphoniques ou d'ordinateurs et de mettre, d'installer sur les ordis des logiciels espions comme les Troyens. Alors il demande est-ce qu'il doit en dire plus sur les Troyens. Alors, toutes ces techniques, ce n'est pas des choses nouvelles, hein, c'est des choses que la France fait déjà depuis longtemps. Ce qui est par contre nouveau, c'est qu'on peut, ils peuvent faire la demande pour des mesures transfrontalières. Et donc, en fait, la technique des Troyens, c'est la réponse de la police au fait qu'il y ait de plus en plus d'objets qui soient cryptés et des communications qui soient cryptées avec PGP, par exemple, ou alors Skype, qui en soi est un outil crypté. Et en fait, la police a dit que ça lui posait problème, c'était très compliqué de décrypter tout ça. Donc là, c'est une méthode, le Troyen, qui permet de choper les informations avant qu'elles soient cryptées. Donc pour dire ça très simplement, ça peut être, la police peut avoir une image miroir de votre écran, voir en fait voir ce que vous faites et voir ce que vous écrivez avant que ça soit crypté. Et donc, en fait, il y a deux types de Troyens. Il y a le petit Troyen qui, en fait, où le juge va autoriser seulement que le logiciel observe seulement une partie, un programme de l'ordinateur, donc Skype, par exemple. Et en fait, le grand Troyen, lui, permet de naviguer sur l'ordi entier. C'est comme une perquisition à distance, quoi. Vous connaissez peut-être le TeamViewer qui permet à une personne tierce d'utiliser votre ordinateur. Alors, il n'a pas connaissance des chiffres exacts pour l'Allemagne, mais il faut bien voir que c'est des outils qui sont peu utilisés, peu autorisés. Pour le grand Troyen, c'est de l'ordre de moins de 10 par an. Et pour le petit, c'est de 30 à 40. Donc, Länder, chaque État fédéral, est en train de réformer les lois de la police. Et concernant les Troyens, ils essayent d'augmenter le champ d'application de ces méthodes. Donc, que ce soit plus seulement pour le terrorisme, mais aussi pour le trafic de drogue, par exemple. Là, il revient au cas européen. Donc, tous les outils qu'il a présentés, là, c'est des outils qui, maintenant, vont pouvoir être utilisés de manière transfrontalière. On sait, par exemple, qu'à Hambourg, après le G20, là, il y a une énorme pression, qu'ils sont en train de faire beaucoup d'enquêtes ils utilisent ce genre d'outils. Alors, il ne peut pas dire exactement lesquels officiellement sont utilisés. La géolocalisation, c'est sûr. Les Troyens, ils ne savent pas trop. Ils pensent que ça va durer encore un moment avant que ça soit vraiment ces outils contre la gauche. Mais bon, qui sait, dans des procès de terrorisme, il se peut que ça soit utilisé. Et donc là, les moyens dont il va parler, là, il est sûr que c'est beaucoup utilisé. Enfin, que ça va être beaucoup utilisé parce que c'est beaucoup utilisé en Allemagne. C'est tout ce qui concerne les téléphones mobiles. Donc vous avez votre téléphone portable dans la poche et il va être utilisé comme outil de géolocalisation. Alors il fait bien la différence, pas utilisé comme outil d'écoute. Ça, il pense que c'est pas fait en Allemagne, mais en localisation c'est sûr. Alors c'est sûr que la police ne le fait pas, parce que la police est obligée d'utiliser des moyens légaux et ça, ils savent qu'ils ne le font pas en Allemagne. En revanche, pour les renseignements et les renseignements étrangers, ça on peut pas dire ce qu'ils font. Alors, il y a une des premières méthodes, c'est de faire la demande au fournisseur à une heure précise sur une borne téléphonique, quel téléphone ont émis ou reçu, ont borné sur cette tour de réseau. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire la demande au fournisseur, que les fournisseurs sont obligés de répondre et qu'ils vont obtenir, par exemple, pour le vendredi 21 septembre, entre 19 et 21 heures, à tel endroit, ils vont obtenir une liste de 500 numéros de téléphone, et de là, ils vont pouvoir travailler avec ça. Et donc, on sait que cette méthode est beaucoup utilisée dans le contexte politique. Par exemple, la police utilise ça beaucoup dans le cadre de manifs antifascistes, pour voir s'il y a eu des bagarres sur des lieux, aussi dans le cas de s'il y a eu des voitures brûlées dans le cas d'une lutte contre la gentrification d'un quartier, ils vont aussi pouvoir regarder est-ce que ce numéro de téléphone était à ce moment-là sur ce lieu et voir si ces numéros de téléphone étaient sur un lieu de commission d'infraction. Et donc une fois qu'un numéro de téléphone a été identifié, par exemple, avec la méthode de la borne, qui est une méthode qui n'est pas en temps réel, qui permet de voir de manière rétroactive qui était où, à quel moment. Ensuite, une fois qu'ils ont identifié quelqu'un comme ça, ils vont pouvoir utiliser la méthode du SMS silencieux, qui là est une méthode en temps réel et qui va pouvoir, qui va permettre de localiser la personne en temps réel.
Also fast Echtzeit, ne?
Quasi en temps réel. Donc ça peut prendre différentes formes. Par exemple, si l'idée de la police c'est de savoir si vous êtes en France ou à l'étranger, ils vont pouvoir envoyer un SMS silencieux par jour. Donc c'est un SMS que vous ne voyez pas. Et le fournisseur, donc ça crée une communication sur votre téléphone qui est enregistrée par votre fournisseur. Et le fournisseur va devoir donner l'information ou aborder le téléphone au moment de la réception du SMS. Ils peuvent aussi envoyer un SMS silencieux toutes les 10 minutes. Et là, ça permet de retracer est-ce que vous êtes sorti de la maison maintenant et où est-ce que vous allez. Et donc, si, en revanche, si le problème de la police, c'est qu'elle ne sait pas quel est votre numéro de téléphone, qu'on ne peut pas remettre un nom sur un numéro, ce qu'ils peuvent utiliser, c'est ce qui s'appelle un IMSI Catcher, qui est un outil qui peut, par exemple, être mis dans une voiture qui sera placée à 50 mètres d'une maison. Et de là, on peut demander à l'appareil de relever tous les numéros de téléphone qui sont dans le périmètre. Alors, le IMSI Catcher, c'est peu utilisé en Allemagne. Par contre, les deux premières méthodes, ça l'est beaucoup. Donc là, il revient au contexte européen. L'expression que vous voyez en haut, le tsunami digital, c'est une expression qui a été utilisée il y a 15 ans par le groupe de travail des ministres de l'Intérieur. Qui se réunissaient pour parler d'Internet. Et ils ont dit, en fait, les personnes laissent énormément de traces, de données digitales. Et il faut absolument que la police puisse maîtriser ce tsunami digital. Et il faut imaginer qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore Facebook. Donc dans cette période-là, le nombre de données disponibles a explosé. Et ils parlent aussi de données rendues publiques. Donc par exemple avec Twitter, si les personnes utilisent sans enlever l'option de géolocalisation, la police va pouvoir regarder s'il y a beaucoup de gens qui utilisent Twitter à Bure par exemple avec le hashtag ACAB. Et donc en fait là c'est pas une méthode où la police vise des personnes qu'elle a identifiées, c'est plus pour anticiper des mouvements de groupes. Et voir qu'il y a un problème potentiel, par exemple avec des fans, des supporters de foot qui vont être assemblés devant un bar d'adversaires. Ils veulent anticiper un problème, quoi. Donc là, parmi les moyens mis en œuvre, c'est écrit le décryptage. En fait, c'est un des objectifs de la police au niveau européen de développer les techniques de décryptage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en fait, ça ne marche pas, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Si le cryptage est bon, si le cryptage est suffisant, on sait que pour l'instant, la police ne sait pas le décrypter. En revanche, s'il y a des mots de passe qui sont trop faibles ou des moyens de communication qui ne sont pas suffisamment cryptés ou mal utilisés, ça, ils peuvent l'observer. Donc, il encourage fortement à utiliser des bons moyens de cryptage. Et donc, il a déjà dit que... Il y a une utilisation des données rendues disponibles sur les réseaux sociaux, ça c'est une chose, mais l'autre chose c'est aussi la possibilité d'enlever des contenus de sites internet. Alors au sein d'Europol, depuis 2 ans, il y a une cellule qui s'occupe spécifiquement des contenus sur le terrorisme islamiste et qui va enlever des vidéos de mobilisation ou de décapitation par exemple. C'est toujours le même mécanisme, en fait, c'est des moyens qui sont d'abord mis en œuvre contre le terrorisme, pour une branche réduite, et ensuite c'est étendu. Donc là, cette capacité d'enlever des contenus étendue à ce qu'ils appellent les passeurs de migrants. Ordonner aux fournisseurs, alors par exemple à YouTube ou à Facebook, des groupes qui utilisent leurs outils pour organiser le passage illégal de migrants, et va donc demander aux fournisseurs de mettre hors ligne les sites ou de fermer les groupes. Par exemple, pour tout ce qui concerne la traversée de la mer Égée. Ils pensent que c'est fort probable que ça soit ensuite étendu contre les sites et les outils de gauche et d'activistes de gauche, et qu'on peut imaginer que en quelques années que ça sera, il y aura des sites qui seront interdits pour incitation à la violence. Voilà. Alors bien sûr, les fournisseurs le font déjà. Facebook, par exemple, retire de lui-même des contenus considérés violents, mais c'est considéré violent selon ses propres lignes. Là, ce qui diffère, c'est que c'est la police qui ordonne aux fournisseurs de les enlever. Donc en fait, quand la police demande de retirer un contenu, c'est souvent c'est parce que ce sont des faits répréhensibles. Et là, ce qu'on peut observer, c'est que ce que font les fournisseurs quand ils enlèvent eux-mêmes du contenu, c'est souvent que ça ne va pas aussi loin, ce n'est pas des faits répréhensibles, mais ils le font pour se protéger, pour ne pas porter la responsabilité. Encore un dernier aspect technique, et après, ils vous laissent respirer, c'est que la police va aussi tenter d'enlever des contenus, mais aussi de pouvoir saisir des données. Par exemple, de savoir ce que vous avez comme email enregistré ou des données qui sont sur un cloud. Alors pour l'instant, quand la police fait des demandes aux réseaux sociaux, c'est compliqué parce qu'en fait, la plupart les données physiques, les serveurs se trouvent pour la plupart des réseaux sociaux unis. Et donc quand la police française, par exemple, fait une demande à Facebook pour saisir des données, la demande va prendre 10 mois et entre-temps, il se peut que les données soient déjà effacées. Et donc c'est pour ça qu'il y a la proposition, c'est pas encore voté, mais la proposition est faite de permettre à un État de faire une telle demande à un fournisseur et que ce fournisseur ait un délai de 10 jours pour donner les données. Mais bon, jusque-là, les États-Unis ne sont pas dans l'Union européenne, donc ces mesures européennes ne vont pas aider dans ce cas concret. C'est pour ça qu'en fait, il y a le projet de faire des accords bilatéraux entre les États-Unis et l'Union européenne pour pouvoir faciliter l'échange réciproque, la saisie réciproque de données. Alors, jusque-là, il a parlé beaucoup des compétences de l'Union européenne en matière de police et aussi un petit peu en matière de migration. Donc ça, c'est des domaines où l'Union européenne a un rôle de coordination. En revanche, c'est pas le cas pour les renseignements. Donc comme l'Union européenne n'a pas ses compétences, les chefs des renseignements se sont réunis dans un cadre hors de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, on trouve aussi des pays comme la Norvège et la Suisse. Et donc c'est pour ça que c'est créé, après les attentats du 11 septembre, le Club de Berne. C'est un groupe sur lequel on a très peu d'informations officielles. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez quasiment rien. Donc il y a très peu d'infos, mais ce qu'on sait, c'est que depuis 2 ans, il y a une plateforme opérationnelle aussi qui a été créée, de Simberm ou de...
Ah non,
c'est à La Haye, en Hollande. Là, les chefs des renseignements des États, donc des 28 États membres, plus de la Norvège et de la Suisse, se réunissent et font de l'échange de données. Pardon, avant, le Club de Berne, c'était que les chefs, et maintenant, il y a carrément une plateforme opérationnelle, donc où il y a aussi des employés. Alors, il existe le même genre de groupe pour la police, ça, c'est beaucoup plus ancien, et c'est... la police criminelle et ça existe depuis 1979. Et donc en fait ils ont été ce groupe, donc qui ne fait pas partie des institutions européennes, ce groupe a été créé dans les années où les mouvements de gauche radicale armée étaient actifs et c'était un groupe qui était pensé comme une réponse à cette violence armée. On sait cependant que en fait dans les années 90 la plupart des groupes armés en Europe se sont dissous. Mais pas le groupe de coopération de police criminelle à ce sujet. Donc en fait, vers la fin des années 90, début 2000, ils ont changé de but.
Que va être pareil,
et maintenant, ils se concentrent sur les mouvements disposés à la violence. Et donc là, il a mis en exemple l'affiche du camp No Border qui a eu lieu à Bruxelles en 2010. Parce qu'on sait que ce groupe de coopération de la police a été actif sur ce sommet. Et donc en fait, au moment de ce camp, il y a eu 380 personnes qui ont été arrêtées sans raison particulière. En fait, ils ont été arrêtés la plupart lors d'une manif où il se passait pas grand-chose. Et on sait juste qu'en gros, leur faute, c'était d'être identifiés comme anarchistes, quoi. Donc c'était un bloc de manifs anarchistes sur une manif de syndicats. Et donc en réaction à ces arrestations massives sans motif, il y a eu une manif spontanée qui allait devant le commissariat et le commissariat a été endommagé.
Alors, genre 10 vitres qui ont été cassées. Et donc, en fait, suite à ça, la cellule belge de ce groupe de police a informé les autres cellules qui avaient eu ces arrestations. La cellule de Belgique de ce groupe a prévenu toutes les autres. Donc, il y avait 16 nationalités différentes. Donc, ils ont appelé les 16 centrales différentes et ils ont envoyé les noms de toutes les personnes qui avaient été arrêtées à ce moment-là avec leur date de naissance et avec en remarque... ont participé à un événement durant lequel un commissariat a été attaqué.
Par contre, ça a été, enfin, on le sait seulement pour l'Allemagne qui a reçu ces 380 noms avec la date de naissance et cette notice. On ne sait pas si les autres 16 pays d'où étaient arrêtés des ressortissants ont eu toutes ces mêmes données. Donc le ministère allemand a dit que les 16 pays avaient reçu ces données, mais on ne le sait pas. On sait que ça a été le cas du ministère de l'Intérieur allemand.
Et donc en fait, c'est très problématique parce que finalement, ces 380 personnes qui avaient été arrêtées n'ont rien à voir avec l'action qui a été effectuée ensuite pendant qu'eux étaient en garde à vue. Et c'est pas anodin d'avoir quelque part dans un fichier un lien entre vous et l'attaque d'un commissariat. Et donc au final, pour compléter la liste des groupes informels, donc les groupes hors institution qui existent, donc on a vu qu'il y en avait un pour les renseignements, il y en a un pour la police, et il y en a un aussi pour les policiers infiltrés. Et donc c'est des groupes qui vont se rencontrer pour parler des stratégies. Et donc dans ce groupe, on retrouve notre cher collègue Mark Kennedy, dont le cas du coup a servi d'exemple et a servi de base de travail pour savoir comment mieux faire, comment éviter que des policiers infiltrés soient découverts. Et donc dans ces sessions de travail, il est aussi question de problèmes techniques parce que comme il l'a expliqué avant, les données biométriques sont de plus en plus utilisées dans le cas des passages de frontières. Et donc pour nos pauvres policiers infiltrés, c'est compliqué puisque ils ont par exemple... S'ils ont deux passeports différents enregistrés avec la même empreinte, ça va poser un problème technique et ça va biper à la frontière. Et donc on sait que dans ces sessions de travail, il y a eu ce cas qui a été discuté et aussi que la police australienne a amené le sujet de la reconnaissance faciale. Et donc en fait, la problématique, ça va être avec les réseaux sociaux par exemple. Donc si une jeune personne, quelqu'un qui a 16 ans, met plein de photos sur les réseaux sociaux et a été identifié par ses potes et « Ah, c'est mon copain Marc, on était en vacances » et tout ça. Et que 5 ans après, cette personne en fait, est dans la police et veut devenir policier infiltré, il a tout un historique sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, toutes ces données qui sont en ligne doivent être effacées. Donc sur le compte personnel de la personne, c'est pas trop un souci. Mais par contre, pour tous les potes qui ont dit « j'étais en vacances avec Mark Stone », ça devient compliqué. Et en fait, ce qu'on sait pas encore avec, ce qu'on peut pas encore prévoir avec la reconnaissance faciale, c'est comment les personnes privées, comment nous, on va les utiliser. Il donne l'exemple par exemple du Facebook russe, l'équivalent de Facebook russe, qui permet de chercher des visages. Et donc l'étude de la police australienne prévoit que en fait dans quelques années, ce sera impossible d'avoir des policiers infiltrés parce que on pourra pas cacher leur visage. Enfin, il y aura des données. Donc voilà, et ça il peut pas dire si ça sera vraiment impossible, mais c'est peut-être l'aspect positif qu'on peut voir dans la reconnaissance faciale. Donc voilà, là il arrive à la fin de sa présentation, il a parlé beaucoup de données, c'est des données que la police peut enregistrer, utiliser, valoriser et exploiter. Et en fait, souvent, ça peut arriver qu'elle n'ait pas le droit, soit il s'agit de délais, qu'ils n'ont pas respecté les délais de conservation, ou alors qu'ils ont enregistré trop souvent certaines données. Et donc là, vous avez le droit de faire des demandes en fait. Et donc là, c'est l'exemple d'un site internet qui a été mis en place par un groupe anti-répression. Tu peux remplir le formulaire, en fait, tu mets tes données, tu coches à quelles institutions tu veux faire ta demande sur tes propres données. À la fin, tu vas pouvoir imprimer un formulaire où tout est déjà fait, les paragraphes juridiques, l'adresse de la police à laquelle tu dois envoyer ça. Tu l'envoies et quelques mois plus tard, tu as une réponse.
Donc ça, c'est bien sûr, il faut pas être naïf. On n'obtient pas toujours des réponses. Mais dans le cas où la police va faire de la rétention d'informations alors que vous y avez droit, en fait, vous pouvez porter plainte. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Ça a marché. Et donc, en fait, sur l'exemple du camp No Border à Bruxelles, ce qu'il vous a expliqué sur les noms, ça, ils l'ont su parce qu'en fait, un des camarades en Allemagne a fait la demande de données. L'Allemagne a refusé de le faire. Il a porté plainte pendant 2 ans. Et au final, c'est lui qui a reçu la liste des noms avec les dates de naissance. Donc, c'était sûrement illégal et c'était sûrement une erreur, mais c'est comme ça qu'ils ont pu savoir... que cette liste avait été envoyée à toutes les cellules de police. Du coup, ce qu'il recommande, c'est de forcer un peu à une hygiène de ces banques de données, que pour faire ces demandes-là, en fait, il n'y a pas, en tout cas en Allemagne, il n'y a pas besoin d'avocat, que bien sûr, il faut un peu comprendre comment ça fonctionne, mais qu'on est en capacité, en fait, de le faire assez facilement. Et en fait, il a pas encore eu l'occasion là d'expliquer ce qu'était l'euro-anarchisme. Du coup, sa dernière diapo avec la blague marche pas vraiment. Et donc en fait, il y a quelques années, Europol avait fait une espèce d'investigation et d'enquête sur la gauche radicale en Europe et avait mis en place une banque de données et avait fait un groupe de travail sur ce qu'ils avaient appelé l'euro-anarchisme. Et donc quand ils ont eu vent de ce groupe de travail sur les euro-anarchistes, du coup ils ont fait une manif avec qui est allée jusqu'au centre de anti-terrorisme avec une banderole où c'est écrit avec le motif des Sex Pistols Anarchy in the Europe. Bref, vous connaissez Anarchy in the UK, mais là c'est en EU. Et donc ils sont allés de façon tonitruante jusqu'au centre anti-terroriste. Et c'était rigolo.
C'est ça.
Voilà. Merci.